Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Elisabeth Antebi.
Aujourd'hui, Elisabeth Antebi, je reçois Monsieur Xavier Darcos pour son livre roboratif sur Tacite. Monsieur Darcos vient, d'ailleurs c'est un livre pas ambigu, mais qui, parce que vous êtes tous sauf ambigu, mais qui vous raconte au fond à travers Tacite, aussi bien que Tacite à travers vous, si on ose dire. Alors je rappelle un peu qui vous êtes pour les peu de gens qui ne le savent pas. Vous êtes limousin, comme le héros de Giraudoux, agrégé de l'université, docteur en études latines de l'université de Bordeaux, doctoresse lettres et sciences humaines, et vous avez toujours eu le sens de l'histoire, puisque c'est en 1968, à l'âge de 21 ans, que vous devenez enseignant à Périgueux, ce qui est quand même une drôle de date, puis à la Cagne du lycée Montaigne à Bordeaux, et enfin vous montez à Paris, à Paris, pour enseigner à Louis le Grand. Bon. Alors, dès cette époque, vous êtes quand même aussi entré en politique, puisqu'en 89, enfin, je veux dire dès l'époque de Louis le Grand, en 89, vous êtes nommé adjoint au maire de Périgueux. Et 8 ans plus tard, en 97, vous êtes élu maire de Périgueux. Et dans votre autre chemin, si je puis dire, parallèle, vous êtes aussi professeur de littérature comparée à l'université Paris 4. Enfin, l'année suivante, tout le monde se réunit en vous et vous devenez sénateur de Dordogne. Ai-je bien résumé votre parcours ?
Mais oui, madame, je vous félicite de connaître mon parcours ainsi.
Bien. Alors, lorsque vous devenez sénateur de Dordogne, vous avez, là je fais un petit, je vous présente avant que nous nous présentions Tacite, vous avez alors 50 ans environ, donc c'est pas si jeune je veux dire, et la politique au fond devient votre deuxième réelle carrière.
Je suis arrivé sur le tard, oui c'est vrai.
Oui, alors pourquoi si tard au fond, pourquoi n'avez-vous pas abandonné auparavant vos chères études, ou du moins l'enseignement, la politique étant peut-être un enseignement d'ailleurs
C'est peut-être à l'inverse qu'il faut dire. Je n'ai jamais cessé d'enseigner ni de continuer à travailler sur les sujets qui m'intéressaient. Aujourd'hui encore, je donne quelques cours au CELSA. J'essaie de ne pas perdre ce fil de ce qui a été ma formation, ma culture, de ce que je dois à l'école, de la volonté de transmettre, de l'attachement qui est le mien aux humanités. Et puis, la politique, c'est venu plutôt. C'est plutôt une aventure au sens latin, justement, adventura, ce qui est donné à advenir, le participe futur du verbe advenio. Et les choses sont venues comme cela, dans des circonstances un peu hors de ma volonté. Lorsque mon prédécesseur, Yves Guéna, a été nommé au Conseil constitutionnel, a cherché de toute urgence un maire. Comme j'étais déjà un peu aux affaires, j'étais à ce moment-là au cabinet d'Alain Juppé, on a dit « mais ça paraît naturel que ce soit lui ». Bon. On a trouvé que j'avais des capacités pour cela. Bon, j'ai accepté. Ensuite, je me suis présenté au Sénat. Tout le monde m'avait dit, présente-toi, mais tu n'as aucune chance d'être élu sénateur dans ce département. J'ai été élu sénateur. Ensuite, j'ai été appelé à être ministre, etc. Donc, je suis devenu un homme politique. Mais ce n'était pas une vocation naturelle dans mon enfance, vraiment.
Mais alors là, vous êtes très tacitéen, si j'ose dire, et en même temps assez jésuite, puisque les jésuites avaient le même principe, c'est que l'homme, c'est l'action.
Oui.
L'homme
oui.
N'est pas ses idées, l'homme est d'abord action.
C'est vrai, d'abord action, mais j'assume complètement ensuite de m'être engagé et de m'être mis à agir dans la cité de manière politique, et j'y ai pris beaucoup de goût. Je suis très heureux d'être maire. C'est un métier qui me passionne, même s'il a toutes ses ingratitudes aussi. J'ai été très fier d'être ministre. Je suis assez content de défendre les idées qui sont les miennes. Bon, je me suis pris au jeu. Mais je n'ai pas le sentiment qu'il y ait un départ si fort entre le métier de pédagogue et le métier d'enseignant, d'une part, et le métier d'homme politique. Il faut expliquer, il faut convaincre, il faut raisonner, il faut amener à ses vues des gens qui en sont parfois très loin. Finalement, je trouve que c'est un métier qui... Ce sont des métiers, si tant est que la politique soit un métier, ce sont des exercices publics qui ont beaucoup de points communs.
Oui, alors justement, vous dites que Tacite, vous dites quelque part que Tacite amène par ses écrits à la lucidité et à l'intelligence. Est-ce que c'est si enviable?
Ce qui va avec la lucidité et l'intelligence, c'est parfois un certain pessimisme, voire une certaine...
Surtout dans Tacite, là, quand on lit votre livre,
oui.
C'est quand même pas bien guégué.
Oui, ouais, voire une certaine amertume. Mais, en même temps, Tacite lui-même, d'ailleurs, ne renonce jamais à l'action. C'est un homme public, c'est quelqu'un qui a fait toute la carrière des honneurs, qui a exercé des postes très importants, qui a été un homme d'influence, dans la dernière partie de sa vie. Et donc, on peut à la fois être sans illusion, je dirais, sur la nature humaine, mais pas désespéré sur l'action à conduire. Ou précisément, comme le dit Tacite et comme l'auront dit des admirateurs de Tacite, que sont des gens comme Machiavel, par exemple, eh bien, précisément, la connaissance désillusionnée de la nature humaine ou des comportements humains peut aider à la gestion politique en utilisant ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal chez chacun.
Alors justement, vous venez de parler de Machiavel. Quand on lit votre livre, on se dit souvent que Tacite et vous, en l'occurrence, vous êtes inspirés tous les deux. Là, je fais évidemment un anachronisme entre Machiavel et Saint-Simon.
Oui.
Il y a une tentation du regard, comme chez Saint-Simon,
tout à fait.
Et du regard assez persifleur, parce que vous avez de l'humour aussi, et du machiavélisme, c'est-à-dire au bon sens du mot d'ailleurs aussi.
Oui, alors c'est vrai, d'ailleurs je le dis dans mon préambule, dans l'avant-propos, je dis qu'au fond je prends Tacite comme on aurait pu prendre La Bruyère ou Saint-Simon, c'est-à-dire des observateurs ironiques, des comportements, des mobiles, des tactiques, des ridicules, des modes. Mais cependant, je m'en référais plutôt à Machiavel, voire à Montaigne, parce que Machiavel n'est pas seulement le décrypteur d'un cynisme du prince, il est aussi le décrypteur de ses comportements, des masses et des individus qui peuvent permettre d'exercer un pouvoir qui n'est pas forcément injuste. Il faut savoir quelles sont les passions qui habitent l'opinion, qui habitent le peuple, non pas forcément pour en tirer profit à titre privé, mais pour pouvoir gouverner. Et je trouve que chez Tacite, il y a ce sentiment-là, sauf qu'évidemment, le prince, chez Tacite, en tous les cas les Julio-Claudiens, est un perverti, est un scélérat, est quelqu'un qui a perdu le sens de l'État, du moins c'est ce que Tacite croit et montre. Et en conséquence, la partie ne peut pas être jouée. Mais dès qu'un prince honorable arrive, comme c'est le cas au tout début du règne de Néron, et comme c'est le cas évidemment lorsque les Antonins arrivent, en particulier Trajan, eh bien on voit en effet qu'un prince honorable, utilisant une société toujours traversée par les mêmes errements, peut devenir un grand prince et fait une bonne politique.
De ce point de vue. Oui, d'ailleurs, vous enlevez des idées acquises en disant que Trajan et même Titus et un tas de gens n'étaient pas si gentils que ça. Parce qu'on les prend pour des grands princes, mais enfin, ce sont des grands princes d'ailleurs, mais enfin, les grands princes ne sont pas spécialement gentils, puisque tout le monde veut aujourd'hui que tout le monde soit gentil.
Aucun. Alors, la gentillesse, là, c'est pas un terme qui convient au monde romain, comme vous le savez. En tous les cas,
il y a un très joli mot de Jacques Gaillard qui dit qu'à cette époque, on descend l'histoire en corbillard.
La formule est belle, oui. Titus a été particulièrement cruel avant de venir aux affaires, avant de devenir l'empereur, en particulier dans la répression qu'il a exercée en Judée. Hein, bon.
Oui, alors là, vous glissez mortel, n'appuyez pas.
Hein. Bon, parce que c'est pas mon sujet.
Du coup, non, mais alors, oui, c'est pas votre sujet, justement. Je trouve que vous avez, je vais pas vous faire le truc sur les. Mais je suis allée voir, parce que vous donnez la référence fort aimablement, sinon j'aurais beaucoup cherché. Vous donnez des très bonnes références, d'ailleurs. Chaque fois, vous recasez les. Ça, c'est très intéressant dans votre livre, parce que ça a l'air tout bête, mais ça, c'est le pédagogue aussi. Vous recasez au tempora mores, qu'il a dit, Fortuna Juvat, etc. Enfin bon. Ouais. Alors, pour la guerre de Judée, là, notre historien, il est quand même un peu farfelu. Il prend ses sources, on ne sait pas très bien où.
Ouais.
Encore qu'il ait encore une de ces formules merveilleuses que vous soulignez, parce qu'il dit « Chez ce peuple règne une honnêteté têtue, une pitié toujours prête, mais à l'égard de tout ce qui n'est pas juif, une hostilité haineuse. » C'est un peu assez moderne, mais quand même, il dit que le nom des Juifs viendrait du mont Ida, que c'est une Taeterima gens, une race monstrueuse.
Ouais.
Bon, là, votre Tacite, il est quand même pas blanc-bleu, si je puis dire.
C'est l'éternelle superstition des Romains vis-à-vis de l'étranger, et en particulier vis-à-vis des étrangers d'Orient. Et comme
vous l'expliquez bien. Alors, ça, est-ce que vous pouvez réexpliquer comment, pour Tacite comme pour les Romains, l'important, c'est l'unité de l'Empire.
Oui. Voilà. C'est-à-dire que l'idée, c'est que la ville et le monde ne font qu'un.
Urbi et
Orbis. Voilà, Urbs et Orbis Unum, disent les latins, c'est la même chose. Le monde romain, c'est la ville évidemment, c'est la cité, mais c'est tout ce qui a été conquis et qui est romanisé. Et en même temps, il y a une souffrance de la part de cette élite romaine du 1er siècle, dont Tacite fait partie, de voir qu'il faut aller jusqu'au bout de ce raisonnement et qu'en conséquence, il faut faire venir aux affaires, et notamment au Sénat, des gens qui sont issus des provinces. Alors ça s'est fait très tôt, ça s'est fait des Césars, hein, avant même l'Empire, et sous Auguste en tout cas, on a fait venir au Sénat des Gaulois, des Espagnols.
D'ailleurs, notre Tacite est gaulois, hein, si j'ai bien compris. Tacite, il est né à Maison-la-Romaine.
Oui. Mais alors, plus compliqué devient ensuite la relation avec l'Orient, parce que l'Orient apporte lui aussi évidemment ses collaborateurs, au sens du terme, qui viennent travailler avec le pouvoir central, mais en même temps, il amène aussi ses mœurs, ses religions, son exotisme, ses religions à mystère en particulier. Et alors là, Tacite s'inquiète beaucoup, il y voit une mixité intellectuelle néfaste, il se méfie de ces nouveaux cultes qui s'organisent autour de lui, et il y voit, pour dire le terme clair, il y voit un risque de décadence ou de déclin. Non seulement venu de l'Orient, mais aussi venu du Nord, il se méfie beaucoup des Germains. En quoi d'ailleurs il est prophète, puisque trois siècles après ce sera fait, et ça sera précisément avec les Germains.
Il ne se méfie pas de la même manière, c'est-à-dire que les Germains, il les admire quand même.
Oui, il admire beaucoup les Germains parce qu'il considère que c'est une nature proche du primitif, qui est encore évidemment très brute, mais pleine de vertus, courageuse, âpre au combat, invincible, brutale, et menant une vie relativement frugale. Et donc il y a toute une apologie de la Germanie, dans l'esprit de ce qui se faisait déjà avant lui, chez Virgile ou chez Horace, le culte de la vie naturelle. Alors que l'Orient, évidemment, c'est tout à fait autre chose, ce sont des gens complexes, raffinés, mais dont les mœurs, les comportements, les conceptions du droit sont très éloigné de la pensée romaine, et Tacite s'en méfie.
Oui, d'ailleurs, Mérimée, vous aviez parlé pour Mérimée de l'influence de l'Orient. Il y a une phrase très rigolote de Mérimée sur César, quand il raconte qu'il veut faire la vie de César, et il parle des mœurs grecques de ce César, qui est un drôle de... Oui. Il dit lui-même un drôle de gars, quoi.
Oui, César a eu des mœurs grecques,
Donc quand même, c'était César.
Parce que tout le monde savait, somme toute.
Oui, donc après tout, ces mœurs grecques n'étaient pas si émollientes que ça, chez César.
Assurément non, mais l'homosexualité ou la bisexualité plutôt des princes, et d'ailleurs de l'élite romaine, n'a pas de rapport au fond avec...
La guéparade.
Oui, ou même une idée de l'homosexualité telle qu'elle est défendue chez un comme Oscar Wilde, par exemple, une espèce d'autre nature.
Quelle est la différence, voilà? Parce qu'on l'aperçoit dans votre livre, mais au fond, on a l'impression, on pourrait citer les exemples adverses, on pourrait vous dire, comme je viens de le faire avec César. Donc, qu'est-ce que dénonce finalement Tacite? Quel est le glissement pervers et final que dénonce Tacite comme vous le dénoncez?
Parce qu'il croit que les grandes vertus républicaines disparaissent. Alors, une n'a pas la nostalgie de la République. Hein. Il considère que le système impérial est bon, qu'il faut un seul chef, qu'il faut quelqu'un qui commande, c'est un monarchiste au fond, si je puis dire, au fond de lui-même. Mais en même temps, il veut que les apparences soient sauves, comme d'ailleurs elles ont toujours été sous l'Empire, puisque au fond, l'empereur n'est que le premier des sénateurs. Il est une princeps, c'est une sorte de primus inter pares, normalement. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Il veut que, à la fois sauvegarder la structure politique qu'il défend, celle de l'Empire, et en même temps, faire revenir, d'une manière sans doute un peu utopique, peut-être forcée, faire revenir les grandes valeurs de la République. La fidesse, la foi jurée, la virtus, le courage, qui fait de vous que vous êtes un homme.
La piétasse.
La piétasse, le sentiment de ce que l'on doit à sa famille et à sa religion, et à sa patrie.
D'ailleurs, la fidesse, c'est dans votre devise à Périgueux.
Oui, absolument.
Alors, redites-nous la devise
Fortitudo
de Périgueux. Fortitudo
mea qui vium fides. La force, ma force est ce que je tire de la foi jurée entre mes citoyens. C'est une très jolie formule. Et donc, toutes ces vertus-là, les grandes vertus romaines qui ont été exaltées, quand Tite raconte dans Aburbe Condita, lorsqu'il raconte les origines de Rome, enfin tous ces personnages que nous avons tous vus dans les versions latines, vous savez, Tacite les admire et essaie de les retrouver dans quelques héros qui d'ailleurs n'aboutissent pas à grand-chose, comme Thrasypaëtus par exemple, qui est le dernier personnage qui apparaît dans les annales telles qu'elles ont été léguées, et qui va au suicide plutôt que de se soumettre à Néron. Il y a profondément chez Tacite un attachement aux valeurs patriotiques latines et il veut les combiner avec la politique moderne qui s'est mise en place à ses yeux, qui est l'Empire.
Oui, mais alors ce qui n'est pas très tentant, si je puis dire, dans cet héroïsme, c'est que cet héroïsme est bien pessimiste. Oui. C'est-à-dire que tout est fichu, sauf que des saints laïcs peuvent, comme vous le dites, sauver quelque chose qui doit s'appeler, je ne sais pas, ça ne s'appelle pas l'âme peut-être à ce moment-là, mais enfin il y a quelque chose de ça. Et vous allez jusqu'à même parler de la communion des saints.
Oui.
Ce qui m'a surpris. Vous finissez, alors là vous finissez fort, parce que vous finissez sur la communion des saints.
C'est un magnifique aspect de la foi catholique, la communion des saints, qui a beaucoup inspiré Corneille aussi, comme vous savez, dans Polyeucte. Mais
et quel rapport alors avec Tacite ? Je sais bien qu'il naît juste après la mort du Christ, au fond.
Non, je vais vous le dire par là, que oui. Tacite croyait à l'exemplarité de la vertu, y compris post-mortem. Et que un héros, une personnalité extraordinaire, une grande âme, était en soi un facteur de bienfait, de rayonnement utile dans sa vie, mais laissait quelque chose après soi. Et qu'il continuait d'animer des esprits, des motivations, des désirs, des ambitions, et qu'au fond, c'est assez proche de ce que le christianisme par ailleurs, parce que je ne fais pas l'assimilation.
C'est héritier du stoïcisme, d'ailleurs.
Tout à fait, oui, absolument. Oui. Je vous rejoins complètement, Madame Antebi. C'est une relecture du stoïcisme. Il ne faut pas oublier que le christianisme s'est développé d'abord à Rome, en tous les cas, dans les milieux stoïciens. Donc il y a là une parenté possible. Mais je voudrais simplement revenir sur un point que vous disiez précédemment, à propos de son grand pessimisme et sur le déclin. Ce que décrit Tacite, c'est le premier siècle, c'est l'époque des Julio-Claudiens, mais au moment où il écrit, c'est-à-dire vers 100, alors que la dynastie des Antonins commence, il a au contraire le sentiment qu'on est sorti de cette faillite. Donc c'est que l'Empire continue son expansion. Enfin, au fond, il est optimiste pour le futur immédiat ou pour le présent. Mais les leçons du passé le laissent sceptique sur le fait que cela puisse durer éternellement.
Nous allons nous interrompre quelques minutes. Nous sommes avec Xavier Darcos pour son livre « Sur Tacite » avec ce sous-titre « Des vérités qui sont les nôtres ».
Un événement,
une association,
une œuvre,
une fondation.
Tout ce qui mérite votre attention est dans Point de Mire,
en direct ou en médiathèque,
sur Canal Académie.
Nous revoilà avec Xavier Darcos, qui vient de faire paraître son livre sur Tacite, des vérités qui sont les... Ces vérités sont les nôtres. Pas toutes ces vérités, peut-être.
Pas toutes.
Oui, bon. Mais je vais revenir sur votre parcours, parce que là, ça rejoint... En 2002, vous êtes nommé donc ministre délégué à l'enseignement scolaire, et c'est l'aboutissement d'un parcours... encore parallèle, si je puis dire, qui est l'inspecteur général, l'éducation nationale, conseiller du Premier ministre pour éducation et culture, doyen de l'inspection générale. Et vous passez de l'éminence grise, on peut appeler ça comme ça, au pouvoir. Vous devenez ministre, parfois chahuté et souvent contrarié. Et est-ce qu'on pourrait parler, on le sent un peu dans le livre, peut-être à tort, d'une... Il y en a un qui a une tentation de Venise. Vous, est-ce que vous n'avez pas une tentation de Tacite ? D'une sorte d'œil froid d'historien qui purifierait les passions d'une époque contradictoire, violente. On sent une tentation de Tacite.
Oui, ce n'est pas faux, mais je pense que tous les hommes publics, tous les hommes engagés sont un peu comme ça. Ils sont à la fois dans l'ambition, dans le désir de paraître et d'agir. Ça fait partie des nécessités pour être un homme politique. Et en même temps, dans la conscience aiguë de leur impuissance et de l'éternel humain, contre quoi il y a peu à lutter, ou en tous les cas, contre lequel on lutte avec des moyens inégaux. Et quand on est aux affaires, quand on est ministre, on a profondément sentiment. À la fois de dire, bon, je suis quand même ministre, je vais au conseil des ministres, j'ai du pouvoir, je peux faire des choses, en plus dans un secteur que j'aime et que je connais, et en même temps, de voir à quel point les choses continuent à résister, et comment les problèmes humains qu'on a eu à croiser, au fond, ne se modifient pas à quelque échelle que l'on soit de la société. Que les difficultés qu'on peut connaître lorsqu'on fait une réunion de quartier à Périgueux ne sont pas sensiblement différentes des difficultés que l'on connaît lorsqu'on a à présider le Conseil supérieur d'éducation nationale. Et donc cette uniformité de la nature humaine, en effet, on peut la considérer comme tacitéenne, car Tacite croit vraiment ça, et qu'il n'y a pas de différence essentielle entre les hommes. Et on peut considérer aussi qu'elle est non seulement tacitéenne, mais qu'elle a un caractère un peu pessimiste, si on considère que la nature humaine n'est pas faite idéalement. Donc c'est ça qui...
Alors il y a une chose que ne connaissait pas Tacite quand même. Heureusement pour nous, dans un sens, les violences sont devenues quand même virtuelles. Je sais bien qu'il y a des violences aussi physiques. Mmh. On va beaucoup moins. Les violences sont devenues beaucoup plus virtuelles. Ce qui est aussi une violence peut-être. La violence du virtuel a fait irruption dans notre société.
Elle est beaucoup plus dangereuse en plus parce qu'on l'a assez virtuelle somme toute.
Oui, c'est des violences de simulacre.
Oui, c'est ça. Oui. Alors qu'elle n'est pas forcément...
Et est-ce que vous croyez que là, Tacite, il y a un moment où Tacite s'arrête, c'est-à-dire que est-ce qu'il pourrait encore, est-ce que nous ne sommes pas passés, quelquefois on se le demande en relisant Tacite et en se disant que c'est des phrases magnifiques, parce qu'il y a ça aussi, c'est une écriture.
Un styliste exceptionnel.
Magnifique. Vous dites très justement, là, d'ailleurs, vous analysez d'une manière très, très, très intéressante son écriture en disant que, par exemple, on sait que, évidemment, qu'il a le sens du raccourci, mais il y a quelque chose que je n'avais jamais remarqué. Qui était que les crimes les plus abominables se perpétuent dans des décors absolument sublimes.
Oui, c'est magnifique ça.
Et ça, c'est vrai. Ouais. C'est vrai qu'on noie Agrippine dans une crique magnifique, etc.
Ouais. Ça, c'est tout à fait étonnant. Il y a un jeu chez Tacite extrêmement subtil, très moderne, et qui d'ailleurs me rappelait Mérimée, curieusement. Je me demandais pourquoi c'était là m'intéressé. J'ai trouvé finalement qu'en effet, ils avaient des points communs. Et c'est-à-dire cette espèce de décalage entre l'horreur des situations décrites et la relative, le ton assez laconique de l'auteur, et surtout les sites qui font contraste. Hein, c'est dans la baie de Naples qu'on assassine, c'est sur une île magnifique que se retire Tibère, c'est dans cette magnifique Toscane que les gens s'entretuent. Bref, on a des sites et des endroits qui sont chargés d'histoire et de beauté, dans lesquels se passent des horreurs épouvantables que le narrateur ou l'historien décrit avec une certaine avec un certain humour noir. La mort d'Agrippine est absolument typique, en particulier lorsque Agrippine tombe dans l'eau avec sa servante qui s'appelle Achéronie, si je me souviens bien. Et Achéronie croit que il est astucieux pour elle de se faire passer pour Agrippine elle-même, pensant en voyant des rameurs qui vont venir la sauver. Elle dit sauvez-moi, je suis la mère de l'empereur, je coule. La barque arrive vers elle, dit vous êtes bien la mère de l'empereur, oui. Et il l'achève à coups de rames et d'aviron. Et Agrippine, elle ne dit rien et part. Et donc, il y a une sorte d'humour noir, en fait, dans cette situation. C'est une situation d'humour noir, il n'y a pas d'autre mot. Et tout ça dans des environnements superbes. Il y a, en effet, chez Tacite, une volonté de démarquer le comportement humain du silence de la nature, un peu comme chez les romantiques du début du 19e siècle.
Alors, vous parlez d'humour noir. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que le début, au fond, il y a une décadence aussi qui se signale toujours par non plus le sourire et l'humour, mais par la dérision. Or, Tacite n'est pas dans la dérision. Il est à la limite de la dérision quelquefois, mais c'est de l'humour noir encore. Mais il a comme ami Juvénal. C'est Juvénal qui va prendre le relais. Et même Suétone, pour certains côtés de dérision. Donc, est-ce que la dérision, vous qui l'avez affronté, vous qui avez été confronté tous les jours à la dérision, nous sommes tout le temps, il suffit que nous ouvrions notre télévision pour être confronté à la dérision la plus abjecte, la plus grotesque, la plus... Est-ce que Juvénal, finalement, ne poignarde pas un peu la République, enfin, l'Empire?
Juvénal, c'est un pamphlétaire, donc c'est ce qu'il a choisi avec beaucoup d'excès.
C'est pas Janco, hein, c'est plutôt plus proche. C'est plus proche, disons, pas de Dieudonné, n'exagérons pas, mais enfin, il y a un côté.
C'est ça là. C'est
un côté.
Oui. Je pense qu'en fait, le problème de Juvénal, c'est qu'il a commencé ses premières satires sur un ton comme ça très humoristique. Est-ce que ce qui a plu dans ce qu'il écrivait, c'est ce qu'il y avait de pire? Comme souvent. Et donc, il a continué ses livres de satire en allant vers le goût du public, je crois, au fond. Et c'est vrai qu'il y a eu quelque chose de très acéré, mais aussi de très complaisant, quand même. Alors, c'est vrai aussi, c'est Suétone, qui raconte surtout des histoires d'alcôve, des bizarreries érotiques.
Et moi, c'est pas très nouveau, puisqu'on vient de sortir La vie sexuelle des hommes politiques.
Voilà, c'est Sexus Politicus. Donc, en effet, Suétone est tout à fait dans Sexus Politicus. Tout autre est le comportement comportement de Tacite, bien qu'il soit lié à Juvénal et qu'ils se connaissent et ils s'estiment, Tacite essaie de garder la tête froide et il n'utilise ses flèches et son ironie et sa dérision que lorsqu'il pense que ça contribue au sens des choses. Enfin, c'est lorsque ça permet de donner du sens aux choses. Il ne perd jamais de vue l'idée qu'il faut quand même que globalement son histoire soit cohérente, afin que tout ceci dessine un destin de Rome. Même s'il est assez différent de Tite Live, car Tite Live cherche pourquoi cette bourgade du Latium a réussi, pourquoi on est parti de Romulus et Rémus et qu'on est arrivé à la domination de tout le monde connu par Rome, Tacite ne se pose pas autant de questions, mais tout de même, il essaie de comprendre comment ça marche, pourquoi ça marche en fait. Voilà. Comment ça marche ce truc ? Comment se fait-il que, à partir d'une petite ville quand même, eh bien, on ait pu produire cet empire ? Et est-ce que ça va durer ? Voilà, c'est les deux questions qui
Alors,
se posent.
Alors, ce qui est curieux, c'est que dans votre livre, on entend peu parler de la Grèce finalement. Oui. Et moi, ce qui m'a frappé, peut-être parce que je suis une femme, c'est très à la mode d'être une femme, je regardais le destiné de ces malheureuses romaines qui, pour la gloire, n'ont qu'une solution, elles sont soit des matrones, soit bien sûr des courtisanes, mais enfin ça c'est de tout temps, soit des matrones, soit elles meurent. Elles n'ont qu'une solution d'héroïsme, c'est de se tuer. Mmh. Alors nous avons même Agrippine qui finalement meurt en, bah, je n'arrive pas jusqu'à dire en martyr pour une si noire héroïne, mais elle désigne son ventre.
Ouais. Frappicide-t-elle. À son tueur en montrant le ventre d'où est née.
Oui, donc c'est encore la matrone finalement, l'anti-matrone si on peut dire. Alors, pourquoi pas les femmes grecques aussi ? Et pourquoi n'avez-vous jamais parlé de la notion que peut avoir, puisque vous parlez aussi de notre temps, de l'œil qu'avait, sur la démocratie qu'ils ont inventée, entre guillemets, Aspasie, cette femme grecque qui, elle, est plus qu'une inspiratrice. Enfin, et même ces types de femmes, puisqu'elles étaient dans le gynécée, je veux bien, mais enfin, c'est quand même des types de femmes absolument extraordinaires. Alors que ces romaines, c'est une kyrielle soit d'enquiquineuse, soit d'empoisonneuse à tous les sens du mot.
Oui, c'est ça. Sont des viragos ou des
martyrs.
Quelle
image des femmes ? Alors, est-ce que l'image des femmes, parce que chez vous, alors l'image des femmes de l'époque n'est pas très finalement.
Il faut dire que Tacite n'aime pas la Grèce et ce n'est pas un
hélénophile. Ah, il n'aimait pas la Grèce.
C'est pas un hélénophile. Il se moque beaucoup de la des manies grecques de Néron. Qu'il dénonce, hein,
puisque de ton, etc.
Des tenues, vous savez qu'on portait des jupes courtes, enfin des sortes de toches courtes à la grecque que Néron voulait imposer. Et il résiste parce que, pour la raison que nous avons dit tout à l'heure, parce qu'il défend les valeurs républicaines romaines, il considère l'hellénisation comme l'ennemi, en fait. Paul Venn a une formule très belle que je cite d'ailleurs, je crois, en note. Il dit que l'hellénisation a été la mondialisation d'alors. Que finalement, les mœurs helléniques, les comportements, les habitudes, les goûts esthétiques, l'art romain, d'ailleurs, c'est de l'art romain, c'est de l'art grec, vous venez voir, que tout ça faisait que la Grèce, finalement, était une sorte de lieu commun de la culture romaine.
C'était pas la vraie Grèce, là, peut-être.
Cette formule a du sens par rapport à ce que veut dire Tacite. Tacite voit l'hellénisation comme une déperdition de la vertu romaine, comme une mixité.
Elle séduisit son farouche vainqueur,
Et donc, voilà pourquoi la Grèce occupe une place modeste dans son œuvre. Et lorsqu'il en parle, il en parle d'une manière qui est rarement tout à fait enthousiaste. Je le répète, il en parle surtout à propos de Néron et d'une manière très péjorative.
Alors parlons de la langue quand même de Tacite, parce que parce que ça vaut la peine, parce que sinon il n'y aurait pas de Tacite et on ne parlerait tacitement, on ne penserait rien. Sainte-Beuve a un très bon mot, et ça revient, vous reprenez l'adjectif ailleurs, il dit qu'il a une langue poignante, ce que je trouve un excellent adjectif. Alors Jacques Gaillard donc écrit de Tacite dans l'Anthologie de la littérature qu'il est le premier écrivain au sens moderne du terme.
Je suis d'accord avec cette formule.
Alors il explique ça en disant qu'au-delà des méditations de l'historien, il a une passion de l'écriture comme acte prométhéen, à la fois scandaleux et libérateur.
C'est très juste, c'est une très jolie formule que j'avais oubliée, j'avais dû la lire à d'autres moments.
Vous le dites aussi, vous, que c'est le mot qui justifie.
Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui est dans l'écriture et qui considère que l'écriture est un moyen d'action, et qui, de ce point de vue, est un auteur moderne. Et surtout, alors, ce que dit Sainte-Beuve, mais que dit aussi, je crois, Montaigne ou Lamartine.
Montaigne a aussi un très bon
ils
mot.
Disent, oui. Ils vous obligent à penser avec lui, quoi. Oui. Ce qui m'a le plus frappé, finalement, dans mon livre, alors que je voulais tellement faire dire à Tacite des choses d'aujourd'hui, c'est à quel point il est irréductible, en fait. C'est-à-dire qu'il résiste. Il ne dit que ce qu'il veut. Il est très, très difficile de le tirer à soi. C'est plutôt lui qui vous attrape. Et je l'avoue d'ailleurs dans ma conclusion, je dis, je reconnais que le combat était inégal et finalement, je ne suis pas arrivé à me défaire de cette force stylistique qui cache une force de pensée, car le style, c'est l'homme tout de même. Je ne suis pas arrivé à m'en défaire et finalement, il m'a imposé en quelque sorte son pessimisme, son amertume, sa sévérité, alors que je voulais à tout prix le tirer ailleurs. Il est irréductible.
Vers la Dordogne.
Vers la Dordogne. Puis vers la positivité tout de même, parce qu'on ne peut pas simplement dire que la politique, c'est le monde de la noirceur et des horreurs. Il faut dire aussi que la politique, c'est le monde du service et de l'altruisme. Quand même, en principe, un homme politique, c'est qu'il voudrait que son action dépasse sa personne.
Alors, vous dites, et on prend une petite pause là-dessus, il défend la langue et le discours parce qu'il donne de la liberté. Ils permettent de formuler l'être et les choses. Et
exactement.
Vous citez Cicéron qui disait « Regina rerum oratio ».
La parole, le discours est maître de toutes choses. Il fait advenir les choses, en quelque sorte, lorsqu'elles sont bien formulées, elles nous les forcent à penser. C'est une conception, en effet, très moderne du style. La phrase de Gaillard que vous citiez tout à l'heure me paraît vraiment très, très bienvenue. Cette idée moderne que le style fait advenir chez le lecteur, chez le récepteur, une pensée qu'il n'avait pas perçue, hein, qu'il n'avait pas vue, et qui le rend plus profond et meilleur.
Nous faisons une autre pause. Je reçois Monsieur Darcos qui nous parle de Tacite.
Il est là, il est venu, le chevalier des mots, celui qui s'est battu sans peur et sans reproche pour que vive le bon français, qui nous a fait aimer la lecture et même l'orthographe. Vous l'aurez reconnu, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie. Et quand il parle du vin, son vocabulaire devient gouléon, on croirait qu'il déguste les mots français. C'est un régal, c'est Bernard Pivot sur Canal Académie.
Nous retrouvons Xavier Darcos et son livre sur Tacite. Alors, Xavier Darcos, Tacite a l'air dans son discours de prôner, au fond, c'est compliqué parce que lui-même tolère des exactions. Il fait le gros dos.
Bien sûr.
Pas un héros. Il n'est pas tellement pour les héros d'ailleurs. Enfin, il les trouve bien quand c'est pas lui qui meurt. Il a plutôt l'air de prôner les hommes du milieu et la troisième voie, si j'ai bien compris.
Oui,
c'est-à-dire
ce que
nous appellerions. Et il écrit d'ailleurs dans les annales que vous citez entre une résistance stérile et une servilité déshonorante. Trouver une route exempte de bassesse et de péril.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Alors, il a fait lui-même ça sous Domitien, on lui a beaucoup reproché d'avoir fait continuer sa carrière sous un prince qui était particulièrement cruel et injuste. En tous les cas, la phrase que vous citez est en effet une phrase clé de Tacite, vous l'avez bien repérée celle-là, parce que il ne veut ni ces espèces de fiers à bras qui s'exposent, qui proclament la révolte et qui finalement se font éliminer très rapidement, sans utilité, avec des répressions derrière d'ailleurs, souvent du coup il y a toutes sortes d'innocents qui en paient les pots cassés. Il trouve tout ça plutôt sympathique mais complètement stérile, premièrement. Et deuxièmement, il n'aime pas non plus, évidemment, les flatteurs, ceux qui ne prennent aucun risque et qui se cachent et qui accompagnent les déviances du prince. Donc il y a une voie entre les deux qui est celle du service public en essayant de garder...
Ah, mais enfin, sous Domitien...
Sans aucun doute. Enfin, mettons que sous Domitien, Tacite se fût révolté et dit que Domitien était un affreux type, comme quelques-uns l'ont fait, comme l'a fait Helvidius Priscus l'Ancien, en écrivant une petite pièce où il se moquait des relations de Domitien avec sa sœur Domitia. Bon, le résultat, c'est qu'il s'est fait zigouiller et sa famille avec. Donc tout ça...
Donc c'est pas très utile.
Bah, c'est ce que se dit Tacite. Où on veut changer le système mais il ne croit pas que ce soit possible. Il pense que le système, c'est la monarchie avec tous ses inconvénients. Ou on s'y soumet bêtement, ou on accepte entre les deux de se rendre utile à autrui, de se rendre utile à l'État.
Vous l'avez prouvé vous-même, ça, en tant qu'homme politique.
Bon, évidemment, nous ne vivons pas dans
pas
une période où les systèmes
pas.
Soient aussi simples. Et je crois en effet que la détestation de tout, enfin, je sais pas, la révolte permanente, je sais pas, aujourd'hui, il faudrait chercher du côté, je sais pas, de Besançon ou de Beauvais, d'un côté et de l'autre côté, au contraire, les petits marquis de la République, il y a entre les deux des honnêtes gens qui essaient de faire carrière en faisant bénéficier autrui de ce qu'ils savent. Et donc je trouve que le comportement de Tacite est un comportement lucide, peut-être pas très excitant, est quand même celui qui est au fond le plus utile à la République.
Oui, d'ailleurs il dit de ce malheureux Galba qui finit par mourir pas mal, je crois. Enfin, il dit ce qui était inertie chez lui passa pour de la sagesse.
Oui, il est très...
Ça c'est absolument extraordinaire.
C'est lui aussi qu'il dit... Il aurait été... Il avait toutes les qualités pour être empereur s'il ne l'avait pas été.
Oui, ça c'est absolument magnifique. On pourrait le dire de bien des gens d'aujourd'hui.
Oui, c'est une formule extraordinaire.
Oui, d'ailleurs Montaigne, j'ai retrouvé, disait « il nous peint et il nous pince ».
C'est ça, il nous peint, il nous pince, oui.
Ça c'est très très beau. Ouais. Mais alors il dit, voilà, donc Tacite, il dit que les hommes oscillent entre la libido servitii,
le désir d'être esclave,
les délices de l'esclavage, et la libido dominandi, qui est au fond assez nietzschéenne. Alors, il y a des accents bizarrement nietzschéens avant la lettre chez Tacite, puisqu'on a l'impression qu'il parle de la volonté de volonté.
Oui.
C'est vouloir vouloir, une machine folle qui tourne
vouloir vouloir. Dans le c'est vrai, je ne m'étais jamais dit, mais en vous entendant, je trouve que ça pourrait assez bien marcher. Il y a ce côté, oui, il y a une côté de volonté de puissance permanente comme moteur de l'existence, oui.
Et puis après, ça tourne à vide.
Oui, mais après, pour rien, c'est ça.
Il n'y a plus rien. Et il dit alors aussi autre chose, et ça, c'est très, très intéressant, c'est un passage formidable dans votre livre, où vous montrez comment, pour Tacite, c'est la peur qui mène le monde.
Oui.
Et comment, et ça, c'est très juste psychologiquement, et comme il arrive quand les esprits sont portés au soupçon, Othon, qui avait peur, faisait peur.
Oui, c'est très juste.
Et alors ça, c'est extraordinaire. Les gens qui ont peur et qui font peur, on est en plein dedans aujourd'hui.
Ce qu'il montre d'ailleurs, c'est que les empereurs ont toujours... une peur bleue d'être assassiné. À juste titre, d'ailleurs, ils ont pratiquement tous été. Ils ont pratiquement tous mort de violence, sauf Tibère, parce qu'il a eu la prudence de laisser enfermer à Capri avant d'être éliminé. Et donc, ils vivent eux-mêmes dans la terreur de leur propre disparition. Et pour contrecarrer cette hantise d'être éliminé, d'être assassiné, eh bien, ils exercent la terreur. Et du coup, on a un terrifiant. Alors, ça revient sans doute à la scène primitive qui fonde toute l'histoire de l'Empire, qui est l'assassinat de César par le parti pompéien, enfin les derniers pompéiens, par
Brutus et
par Brutus, ses compagnons. Et on voit très bien que César avait, au fond, est mort, assassiné, parce qu'il n'a pas cru qu'il pouvait être assassiné. Parce qu'il n'avait pas peur, en fait. César est mort parce qu'il n'avait pas peur. Et malgré les avertissements, vous savez, méfie-toi des idées de Mars, malgré son entourage qui lui montrait parfaitement, il ne croyait pas que ce fût possible, il croyait que ce parti, cette attitude populiste qu'il avait choisie, il réussirait jusqu'au bout. Il est mort. Les autres sont souvenus de l'exemple. Et même Auguste n'a pas été... avant d'arriver à la clémence d'Auguste, il y a eu beaucoup de violence de la part d'Auguste. Et donc, en effet, du coup, comme vous le dites, et comme le dit Tacite, dans un monde de peur partagée, de rapport de force, et c'est vrai qu'on comprend pourquoi les princes tyranniques, et en particulier le prince auquel pense Machiavel au XVIe siècle, ont cherché dans Tacite des exemples, parce qu'en fait, ils vivaient quelque chose tout à fait comparable. Lorsqu'on lit Lorenzaccio, on est exactement dans le même état d'esprit, en fait. Tu me demandes pourquoi je tue Alexandre. Et donc, on est dans un univers de peur. Et je crois que l'aspect sombre de Tacite, qui frappe au fur et à mesure qu'on avance dans la lecture, est même plutôt plus sombre vers la fin, quand on est dans les annales, vient de cela. C'est qu'en fait, on vit dans un monde où tout le monde se guette, voilà, et tout le monde craint. Et d'autant que, au milieu de l'Empire, la toute puissance de l'empereur est terrible. Et le crime de lèse-majesté.
Oui, ça vous le dites très bien. Oui,
suffit d'éliminer n'importe qui pour n'importe quoi. Donc on peut être assassiné du jour au lendemain.
Oui, puisqu'on entre avec une bague dans un lupanar.
Ah oui, donc.
Si Auguste dessus. Ben, voilà. On
peut toujours trouver quelque chose pour éliminer quelqu'un. Donc évidemment, ça crée un climat de terreur tout de même.
Oui. Alors, vous aimez au fond le même genre d'homme.
Que qui? Que vous?
Non, pas que moi. Pas que moi. Non, vous aimez le même genre d'homme parce que, déjà, il y a Tacite en Mérimée. Mmh. Ou il y a Mérimée en Tacite, puisque vous écrivez à un moment donné, Mérimée, en dépit de ses caricatures, confirme et affine sa méthode, fondée sur une approche réaliste et acide. Ce qui doit être, au fond, une méthode qui vous plaît. Il fait court, définissant les personnages par leurs traits étonnants ou abjects, sans trop de description. On croirait lire Tacite aussi. Hein. Et en effet, vous donnez comme exemple que j'ignorais chez Mérimée, la Saint-Barthélemy et ses torrents de sang.
Ah oui.
Et il se vautre dans le sang.
Ah oui, c'est terrible.
Et alors, vous écrivez, Mérimée fut d'abord, et c'est peut-être ça qui vous fascine, comme l'autre, un homme de raison dans un temps de ferveur.
Ah oui.
Alors, est-ce qu'on peut vous définir comme un homme de raison en des temps de folie?
En tous les cas, ce n'est pas forcément par hasard qu'on a fini par s'intéresser à celui-ci, à celui-là. Ce qui est vrai, c'est que c'est seulement quand ça a été fini que je me suis rendu compte que Tacite et Mérimée avaient bien un point commun, voire que j'avais utilisé pour l'un et pour l'autre des formules comparables, comme celle que vous venez de citer, un homme de raison dans un temps de fureur ou de ferveur, et qu'il y a bien des points communs. Oui, je suis bien obligé d'admettre, mais au fond, je n'en sais rien, mais je suis bien obligé d'admettre que si ces deux auteurs m'intéressent tant, et finalement tous les deux depuis assez longtemps, c'est que je dois me reconnaître, je dois reconnaître un certain nombre de questions que je me pose en eux.
Oui, c'est un portrait en creux, finalement.
Sans doute. Vous savez ce qu'il disait toujours, c'est Anatole France, je crois, il disait qu'un critique littéraire, c'est disait quelqu'un, je vais vous parler de moi à propos de quelqu'un d'autre, vous savez. Et donc, c'est vrai, quand on parle de Tacite ou de Mérimée, qu'on y passe très longtemps, j'ai passé beaucoup de temps sur l'un et sur l'autre.
Et ça se sent.
On parle un peu de soi, oui. Mérimée, j'ai travaillé sur lui.
Non, vous ne parlez pas seulement de vous, parce que ça ne serait peut-être pas si intéressant pour les autres. Vous parlez, alors là, moi, je parle en tant que personnage extérieur qui vous lit et qui a vécu la période où vous avez été ministre. Ce qui est intéressant, c'est que vous parlez d'une certaine manière d'exercer le pouvoir, en des temps quand même pas très simples, et un poste pas très simple. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que vous dialoguez avec vous-même sur, sur ce que les physiciens appellent, vous savez, pour une particule, le degré de liberté.
Oui, oui, oui.
Et alors vous finissez, alors là c'est très inquiétant, en nous racontant qu'au fond, tous ces gens-là ont lutté contre les barbares avec des mots. Justement, pour qu'ils ne disent plus barbare, ce qui est le propre du mot. Oui, ce qui est le propre du mot. Mais alors, qu'est-ce qu'est le barbare pour vous, puisque nous sommes, semble-t-il, entourés de
Mais c'est
de
celui
barbares.
Qui essaie de refouler l'humain en lui, n'est-ce pas? Et je trouve que la société moderne en donne trop de signes. Alors évidemment, il y a la barbarie objective quand on regarde les massacres du Soudan ou que sais-je, ou les génocides, mais plus subtil et dans une certaine mesure plus destructeur pour nous, immédiatement, et la barbarie qui ne suscite aucun scandale, qui ne suscite aucune protestation, celle qui s'infile, et qui est une barbarie où petit à petit, tout ce qui fait que nous sommes humains disparaît. Nos typisations sexuelles, nos respects des filiations, notre attachement à l'histoire, la verticalité du savoir, qui est aujourd'hui remplacée par une espèce d'horizontalité de l'information, ce besoin à tout prix de se percer les sourcils, de se tatouer, de remplacer la musique par des borboriques.
Oui, mais alors, un gosse dirait, oui, mais enfin, c'est un vieux scrogneux, il ne comprend pas qu'on s'amuse.
Alors, j'assume
si
ça.
Si je puis me permettre d'être
j'assume complètement ça, le côté ronchon. Mais profondément, c'est peut-être parce que mes exemples sont un peu superficiels dans ce que je viens de dire ici, mais en même temps, ils contribuent à ce que je veux dire. Je trouve qu'il y a un refoulé de l'humain dans la société moderne et qui est au fond la barbarie. Voilà. Il suffit de brancher sa télévision pour le voir, tous les soirs.
Oui, mais nos jeunes barbares, et c'est peut-être ça justement ce qui ne passe pas entre les hommes de pouvoir et... À l'époque de Tacite, comme à celle de Mérimée, les gens avaient le mot, justement. Les gens savaient ce qu'était une phrase. Mmh. Écoutez un discours. Vous avez dit tout à l'heure, ce qui est merveilleux, ce qui est vrai pour nous dans l'écriture, c'est que quelqu'un nous fait songer à quelque chose à laquelle nous n'avions pas songé, pas ainsi. Alors, est-ce qu'il est encore temps de transmettre par des mots, puisque les jeunes barbares Barbare. Donc ils ne comprennent pas ce que vous dites. Et plus vous parlez, plus c'est une agression. Ouais. Donc dans ce tourner en rond, si je puis dire, comment transmettre? Comment transmettre?
C'est bien pour ça que...
Sinon vous, par l'image.
C'est bien comme pour ça que vous et moi, Elisabeth Antebi, nous essayons de défendre l'enseignement des langues, et voire des langues anciennes, en tous les cas, l'enseignement du discours par lequel s'établissent les relations interpersonnelles, et de la langue et de l'écriture. Et on voit bien, allant dans le sens de ce que je dis sur le refoulé de l'humain, on voit bien qu'il y a quand même un refus aujourd'hui d'une partie de la population scolarisée d'entrer dans la langue.
Et parce que pour vous, finalement, c'est ça qui est intéressant, la langue, c'est l'homme.
Ben oui, bien sûr, bien sûr. On ne pense pas sans mots, et on pense mieux lorsqu'on a plus de mots. Et surtout lorsqu'on a des mots, comme vous l'avez dit, on n'a pas besoin des gestes. On est dans un rapport de force, sans doute. C'est une puissance que la langue. Mais c'est une puissance qui n'est pas destructrice, comme peut l'être la violence ou les formes diverses d'agression auxquelles nous assistons. Bon, enfin, je ne suis pas à ce point convaincu que tout va si mal. Je dis à la fin qu'il faut avoir un optimisme raisonnable et qu'il faut savoir que l'action publique, l'action politique est une sorte de lutte contre le chacun pour soi, parce que le chacun pour soi, c'est une sorte d'autisme précisément, de refus de la langue, de refus de contact avec autrui, qui est pour moi l'abandon de l'humanité en soi, et donc la même chose que la barbarie.
Bien, eh bien, lisez Tacite de Xavier Darcos, car ces vérités sont les nôtres.
Merci beaucoup.
Merci.